Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillée à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. Je n'ai pu me rendormir. Vinciane Després, ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Habiter en oiseau ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec les Rita Mitsuko, « Ding, ding, dong ».
J'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu, regarde-la et elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer, l'aurore tant fort fait couler ta rosée, le ciel est clair, l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte.
Êtes-vous vivante, Vinciane Després ?
Certains jours très, et d'autres jours un peu moins. Et comme tout un chacun, je pense, enfin, ou en tout cas les gens qui ont de la chance de pouvoir se sentir vivant, parce que je crois que c'est une question aussi presque luxueuse aujourd'hui de se sentir vivant. Et je me sens vivante donc quand je suis dans certaines situations, notamment des situations de pensée avec d'autres ou des situations de promenade avec ma chienne et j'entends des oiseaux et voilà, je me sens vivante parce que d'autres quantités d'événements me font sentir vivante.
Si je vous pose la question, c'est parce que vous aviez fait il y a quelques années un livre admirable qui s'intitulait Le bonheur des morts. Vous aviez décidé comme discipline méthodique et scientifique, car vous êtes une chercheuse en anthropologie qui défrichait des territoires assez audacieux, vous aviez décidé d'écouter toutes celles et ceux qui auraient des choses à vous dire sur leurs proches qui étaient morts.
Et qui étaient restés bien vivants pour eux, en
et effet. Et qui étaient plus vivants, peut-être, qu'eux-mêmes, quelquefois.
Oui, alors, c'était une enquête qui m'a vraiment menée là où je ne pensais pas aller. C'est-à-dire dans des histoires qui sont des histoires passionnantes, créatives, où les gens témoignent d'une imagination absolument phénoménale, et en même temps d'une sagesse qui accompagne cette imagination. Et c'est là où ça m'a surpris, c'est que j'avais constaté que les gens me racontaient soit des choses qu'ils faisaient pour maintenir leur mort en vie, en quelque sorte, et dont ils se reconnaissaient très bien que c'était ces actes qui permettaient de réactiver la vitalité du mort, soit ils me racontaient des sentiments de présence, des sentiments de message, des sentiments de signes. Il y avait énormément de sagesse, puisque je remarquais que chaque fois que les gens me racontaient une histoire, ils la construisaient syntaxiquement de telle sorte à ce que je ne puisse pas attribuer préférentiellement au mort ou préférentiellement à la subjectivité du vivant l'origine de ce qui se passait, du type quelqu'un. Allez, je vais prendre un exemple très simple qu'on trouvera d'ailleurs dans un livre de Pascal Dreyer. C'est une dame qui achète un billet de tombola le jour anniversaire d'un voyage avec son mari sur les mêmes lieux, donc mari décédé bien entendu, sur les mêmes lieux de ce voyage, et qui s'achète un billet de tombola après s'être acheté une paire de boucles d'oreilles qu'elle regrette depuis lors, enfin qu'elle regrette depuis le moment de l'achat parce qu'elles étaient vraiment trop coûteuses pour elle. Et le billet de tombola est gagnant et du prix exact des boucles d'oreilles. Et elle va dire, c'est comme s'il m'avait fait un cadeau. Et ça c'est très joli, par exemple, il y a plein de comme si. Et les comme si, les gens savent très bien ce qu'ils font. Ils construisent un récit de telle sorte à ne pas laisser toute la puissance d'agir d'un côté ou de l'autre, de ne pas supprimer la possibilité que quelque chose soit, mais de ne pas supprimer non plus la possibilité qu'ils soient eux-mêmes en train de fabriquer cette histoire avec leur mort.
Donc on voit bien que depuis le début de vos recherches, qui portent beaucoup sur les animaux, beaucoup sur les frontières de la conscience et de la sensibilité humaine, vous croyez à l'incroyable. Et vous, pour essayer de comprendre et de décrypter cet incroyable qui peut-être fait partie de notre raison, alors qu'on l'écarte généralement, vous avez décidé de tout écouter pour mieux comprendre, pour mieux vous imprégner de ce qui se dit. Est-ce que c'est par la parole que les choses humaines sont les plus importantes, ou est-ce que c'est par le subconscient, comme les rêves, auxquels vous accordez aussi beaucoup d'importance dans votre recherche anthropologique ?
Je peux dire, l'incroyable, en fait, ce que je fais, c'est surtout le soutenir. C'est le soutenir pour donner... C'est vraiment un travail à la William James. Quand William James s'intéressait au travail des gens qui faisaient... au spirit, par exemple, au médium, etc. Il disait simplement, il ne faut pas laisser ça aux mains des seuls scientifiques, il ne faut pas laisser ça aux mains des seuls rationalistes. Il faut continuer à soutenir parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va apprendre de ce côté-là. Et donc, il faut soutenir pour continuer à apprendre. Et donc, je ne prenais pas du tout position en faveur de l'un ou de l'autre, sauf pour les animaux, parce que ça, j'avais quand même, je veux dire, la question de la conscience animale, des cultures animales, etc. Quand j'ai commencé à travailler, c'était encore des gros sujets de controverse. Il y avait encore plein de gens qui disaient, mais non, plein de scientifiques, hein, qui disaient, mais non, ils n'ont pas de conscience, c'est pas vraiment de la douleur, etc. Mais il fallait soutenir. Alors là, j'avais une conviction. Je sentais bien que c'était pas aussi simple que ça. Et je lisais trop de scientifiques un peu ouverts d'esprit pour comprendre qu'il y avait une grosse erreur dans cette affaire-là. Donc il s'agissait pas là de soutenir et j'adhérais pleinement. Tandis que pour les morts, je n'adhérais pas. Il n'était pas question de croire ou de ne pas croire. Il s'agissait de soutenir des choses qui étaient disqualifiées, qui étaient dans une atmosphère hostile par rapport à ces discours. Alors, il s'agit en effet... Alors, vous avez parfaitement raison aussi de souligner, est-ce que tout passe par la parole ? Non, tout m'arrive par la parole. Et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à oublier, et que vous me le rappelez, que les choses ne se passent pas que par la parole. Mais moi, comme je n'ai affaire, en effet, qu'à des histoires qu'on me raconte, ou à des écrits scientifiques, ou à des descriptions que les ornithologues ont fait, j'ai un peu tendance à me focaliser en effet sur le fait que tout passe par la parole, alors que vous avez raison. Et peut-être que j'apprendrai à y prêter attention moi-même dans les années qui viennent. C'est, par exemple, qu'est-ce qu'un rêve peut me faire changer d'avis ? Et ça m'est arrivé dernièrement. Il y a eu un rêve, par exemple, qui m'a fait, d'un seul coup, qui m'a donné une piste et qui s'avère pour moi extraordinairement féconde. Je ne sais pas ce que ça va produire. Il y a des rêves parfois qui peuvent en effet complètement orienter quelque chose. Vous étiez dans une voie et vous pensiez qu'elle était la bonne et en fait votre rêve vous dit mais essaye un peu de ce côté-là, tu vas voir. Enfin, il faut l'interpréter ce rêve. Hein. C'était un rêve où il y avait une lumière qui s'allumait et j'entendais la lumière. Et je sais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui fait ce rêve-là? Pourquoi est-ce que j'entends la lumière? Comme si j'avais cette compétence qu'on appelle la synesthésie. Et puis, je me dis, mais sur quoi je travaille? Pour le moment, qu'est-ce qui me pose une difficulté? Ah, je travaille sur les araignées de Thomas Saraceno. Je suis en train d'essayer de produire un texte et je suis pas tout à fait sûre de ce que je suis en train de faire, etc. Et je me dis, tiens, mais quand j'entends la lumière, qu'est-ce que ça me dit? Peut-être que les araignées communiquent même avec nous dans nos oreilles. Par des vibrations. Et qui sait si nous ne sommes pas affectés par les araignées? Et là, ça s'est mis à se fabriquer. Et depuis lors, je suis passionnée par l'idée que peut-être qu'à l'état de. Que la musique, que le chant des oiseaux, que les vibrations des araignées, peut-être que ça marque nos corps sans qu'on s'en rende compte et que c'est peut-être une araignée qui m'a fait rêver. On peut aller jusque-là. Peut-être qu'une araignée est entrée dans mon rêve. Peut-être qu'une vibration d'araignée est entrée dans mon rêve. Peut-être qu'il a essayé de fabriquer quelque chose avec ça. Mais là, je fabule, évidemment.
Pourquoi vous êtes devenue chercheuse, Vinciane Després?
Je pense parce que je ne savais pas faire autre chose. Parce que ma tolérance à l'ennui est telle que je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Parce que j'ai vraiment lutté pour le devenir. Parce qu'on ne voulait pas de moi au départ. Je n'étais pas vraiment très sérieuse. Je n'étais pas très disciplinée. Je n'étais pas très bonne. Je n'étais pas très bien équipée théoriquement en philosophie. Et donc j'avais beau frapper à toutes les portes. Voilà. Et je pense que si j'ai tant insisté et que si j'ai tant retardé... Le moment de me mettre vraiment dans le marché de l'emploi, donc en faisant des tout petits boulots, je travaillais dans des restos, etc., plutôt que de chercher vraiment à... J'aurais pu trouver quand même un diplôme universitaire, j'aurais pu travailler dans une banque ou des choses comme ça. Je pense que si j'ai tellement traîné avant de trouver, c'est parce que je gardais l'espoir que tant que je ne m'engageais dans rien, peut-être que j'allais devenir chercheuse. Et je pense qu'être chercheuse... Vous savez, moi j'ai remarqué beaucoup de chercheurs, et c'est... Vous avez un film de Chris Marker, une série de Chris Marker sur la Grèce antique, où un chercheur vous dit quelque chose de passionnant. Et je pense que je suis très proche, j'ai toujours eu le sentiment, moi, qu'être chercheuse, c'était continuer à aller à l'école. C'était continuer à être une espèce de... J'aurai 18 ans demain, vous savez, c'est ça. D'être une espèce de post-adolescente, dans la mesure où on est tellement un peu coupé quand même des réalités, parce qu'on est quand même tout le temps dans les bouquins, enfin, pas tous, hein, je ne parle pas des éthologistes, etc., mais dans des problèmes d'une curiosité intense à l'égard du monde, de problèmes théoriques, des problèmes pratiques, mais qui concernent des théories, dans des idées fabriquées de la pensée, fabriquées du savoir. Et je me dis... Il y a quelque chose, chez beaucoup de chercheurs, ça reste des grands adolescents, c'est-à-dire on n'a pas eu envie de quitter l'école. Et je parlais donc de ce je ne sais plus comment il s'appelait, c'est un chercheur qui américain, à qui on demandait, mais pourquoi est-ce que vous avez travaillé comme chercheur, vous étudiez la Grèce ancienne. Et ce chercheur américain disait, mais quand je suis sortie de mes études, j'ai essayé d'aller dans le vrai monde, et j'étais tellement, en quelque sorte, imprégnée, par le monde des Grecs, la manière dont ils vivaient, le raffinement, la sophistication, et ça, que je ne me suis pas du tout retrouvée dans ce monde-là, dans le monde réel. Et donc, je suis retournée dans le monde où je pouvais vivre. Et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Je veux dire que moi, chez les ornithologues, chez les penseurs et tout, j'ai l'impression d'être dans un monde où je peux vivre. Alors, je ne parle pas de l'université ici, où ça devient un monde où on est de plus en plus difficile de vivre, mais je parle du monde de la pensée.
Vous avez évoqué tout à l'heure la philosophie et le statut de l'animal à l'intérieur de la philosophie. Vous avez souligné à très juste titre, Vinciane Després, qu'il y a encore une quinzaine d'années, le statut philosophique de l'animal n'était pas un sujet en soi. Il y a eu quand même quelques grands penseurs, dont Jacques Derrida, pour penser justement notre coexistence avec l'animal. Je vous propose de l'écouter. Il va évoquer la différence entre l'animal et l'homme. C'est une archivina du 16 juillet 1999.
On peut dire, d'une certaine manière, que tout vivant a un pouvoir de se rapporter à lui-même, de s'auto-affecter, ce qui ne veut pas dire nécessairement réflexivité au sens... plein du terme, a le pouvoir de manifestation, et ce pouvoir de manifestation rencontre une limite, cette limite pouvant engendrer ce que vous nommiez à l'instant la tristesse. Mmh. Mais ça n'est pas plus réservé à l'animal que exclu chez l'homme. Mmh. Heidegger dit que l'animal, il dit des choses contradictoires à ce sujet, que l'animal a un monde, au sens où Heidegger entend ce mot, mais qu'il est pauvre en monde. Alors que l'homme est la pierre, dit-il, n'a pas de monde, la pierre n'a pas de monde, elle est weltlos. L'homme figure ou forme un monde, il est weltbildend, et l'animal est pauvre en monde. Et je crois que l'analyse de ces textes très riches de Heidegger de 1929-30, sur lequel j'essaierai d'écrire une autre fois, plus tard, et auquel j'avais consacré quelques heures de cette décade de Cerisy, ces textes de Heidegger sont à la fois extrêmement riches, provocants, nouveaux. Heidegger prend en compte, exculte un savoir sur l'animal, mais en même temps, selon moi, mais là je ne pourrais pas le démontrer très vite comme ça devant un micro, selon moi reproduit un certain nombre de présuppositions, alors oserais-je dire cartésiennes, classiques sur l'animal, privé de langage, privé de mort, privé en un mot de l'apparaître comme tel. Heidegger dit l'animal a un rapport notamment au soleil, à la chaleur, à la pierre, mais il n'a pas de rapport à ces choses-là comme tel. C'est le comme tel de la phénoménalité en tant que tel qui lui manque. Hein. Et donc la possibilité proprement phénoménologique, si vous voulez.
Vous, Vinciane Després, à l'intérieur de votre œuvre publiée, et elle est déjà extrêmement conséquente, il y a de nombreux livres, dont ce dernier, consacré au monde animal. Là, c'est plus particulièrement les oiseaux, et on y reviendra. À partir de quand cette passion pour le monde animal et aussi pour la nature, car je crois que les deux sont consubstantiels, l'amour de la nature et les animaux, à partir de quand cet amour s'est-il éveillé en vous?
Alors, je vais prendre deux temps différents. Je pouvais pas aimer les animaux. Enfin, j'étais enfant et mes parents m'ont adopté pour moi, mais spécialement qu'on était une famille nombreuse, mais c'était pour moi un chien. Et puis ce chien a disparu quelques temps après, 2-3 ans après, et j'en ai conçu un immense chagrin. Donc ils ont réadopté un autre chien pour que je puisse continuer à vivre avec un chien. Et je n'ai pas eu le sentiment de vivre avec un animal. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas comme une humaine face à un animal. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément marquée comme expérience. Je ne me suis jamais. Alors je me sens bien sûr humaine face à un animal dans la mesure où il y a des différences, mais pas au sens traditionnel de c'est un animal et c'est une humaine. C'est un chien ou une chienne et je suis une humaine particulière et je dois faire attention à composer avec ce chien et cette chienne qui ne pensent pas nécessairement comme moi, mais comme beaucoup d'autres humains comme moi en tant que femme, je sais que je compose avec des hommes qui ne pensent pas comme moi et parfois avec des femmes aussi qui ne pensent pas comme moi, mais je fais une plus grande différence entre la manière de penser des hommes masculins et des femmes. Donc je vais dire, on est tout le temps confronté à des gens qui ont d'autres choses dans la tête que ce que vous-même avez dans votre tête. Donc ça, c'est une première étape. Et je pense que ça m'a profondément marqué, cette non-différenciation selon la barrière, selon la frontière humain-animal. Elle passait pas par là. Voilà, elle passait pas du tout par là. Et elle passait pas par une frontière générale. C'était avec ce chien-là qui était tel et tel. Et puis c'était avec ce chien-là qui était tel et tel. Et puis après, je n'ai plus trop pensé à tout ça. Et quand j'ai repris des études d'éthologie, enfin de psychologie, dans lesquelles j'ai pu suivre une spécialisation en éthologie, ce qui était possible à l'université de Liège à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, je me suis trouvée à écouter les éthologistes et à penser, voilà les gens les plus brillants que j'ai rencontrés. Non seulement parce qu'ils racontaient des histoires formidables, parce qu'ils avaient une imagination incroyable, parce qu'ils retraçaient, ils faisaient des hypothèses magnifiques, ils devaient tout le temps traduire. Et en fait, ce n'est pas les animaux que j'ai aimés, c'est les gens qui en parlaient. Et j'ai appris à aimer les animaux avec eux, parce qu'ils en parlaient. C'est un peu comme, vous savez, vous pouvez parfois aimer des gens simplement parce qu'on vous a dit des choses formidables d'eux. Vous les auriez rencontrés peut-être dans la rue ou dans une réception, quoi que ce soit. Vous n'auriez pas prêté attention, ou ils vous auraient même dit 2-3 choses, il ne se serait rien passé. Et puis quelqu'un vous dit, tu sais, cette personne-là, voilà ce qu'elle a fait, ce qu'elle est capable de faire, voilà sa générosité et tout. Puis vous la rencontrez et il va se passer quelque chose probablement, sauf s'il y a une erreur complète ou une erreur de casting. Et bien, je pense que les animaux, c'est ça. On m'avait appris à voir chez eux des choses tellement belle, tellement intéressante, tellement créative, etc., que je ne pouvais pas m'empêcher quand je les lisais plus loin, quand j'allais plus loin dans la littérature ou que je les rencontrais sur le terrain, ça m'est arrivé quand même 2 ou 3 fois, d'éprouver à leur égard un sentiment de... Alors je ne sais pas, de l'admiration, c'est pas de l'estime, c'est de la sympathie, mais pas au sens de l'empathie. C'est un sentiment d'affinité, voilà, d'affinité.
Avec qui? Je dis qui à dessein, hein, parce qu'on peut pas dire avec quoi.
Voilà, non, avec les chiens, évidemment, parce que les chiens sont revenus dans ma vie très tardivement. notamment une chienne, avec les merles, avec les oiseaux, avec les passereaux d'Arabie qui avaient fait mon premier terrain. Et puis avec Jocelyne Porcher, c'était avec les vaches que j'ai appris à regarder tout à fait autrement, et avec les cochons que j'ai appris aussi à regarder autrement. Et puis avec Thelma Roel, avec les moutons. Et voilà, donc c'est chaque fois des animaux particuliers.
Mais vous vous mettez à quel niveau pour pouvoir les comprendre ?
Ah, je pense pas que je les comprends. Je pense que je les comprends pas très bien.
Vous les observez ?
Alors très peu, hein. Donc moi, les cratéropes, les passereaux d'Arabie, oui, j'ai dû les observer parce que comme j'accompagnais un éthologiste sur le terrain et qu'il m'avait accepté avec lui sur le terrain à condition que je me comporte comme une éthologue et pas comme une philosophe. Hein. Ce que vous faites en philosophie, moi, ça m'est égal. Mais vous venez avec moi, vous observez les oiseaux comme moi. Mais vous pouvez me poser des questions comme si vous étiez un apprenti éthologue, ce que j'ai fait. Et donc, au début, je voyais rien du tout, quoi. Je posais tout le temps des questions. Et vous voyez quoi maintenant ? Et puis vous dites ça pourquoi, etc. Mais on apprend. Pour les moutons, c'était pareil. Pour les cochons et les vaches, c'est pareil. Mais je suis encore loin de pouvoir comprendre une vache. Il y a deux, trois, parfois des choses que je vois et j'ai l'impression que je les comprends, mais c'est seulement deux ou trois choses. Elles sont tellement compliquées aussi, les vaches.
Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un que vous admirez, et nous aussi, vous en parlez souvent dans vos livres. C'est Diane Fossé. Diane Fossé qui a inventé en éthologie, notamment avec les singes. Elle va parler de sa rencontre avec les gorilles.
Je suis venue ici pour faire de la recherche. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on ait le droit de fermer les yeux sur les problèmes de la protection animale.
Alors c'est vrai que dans la pensée de l'éthologie, dans l'histoire de l'éthologie, il y a des gens qui ont eu leur heure de gloire à un moment donné, et puis qui ont disparu, engloutis par cette science qui est encore un peu trop marginale, l'éthologie. Et Diane Fossé fait partie de ces gens qui ont été pionnières à la fois dans la compréhension, dans la proximité, dans la scientificité de son approche. Est-ce que nous, les femmes, on est particulièrement douées pour pouvoir comprendre le monde animal ?
Alors, c'est une hypothèse qui a été faite notamment, alors c'est assez intéressant, ça a été faite par Leakey, le paléanthropologue qui a envoyé justement Diane Fossé sur le terrain. Et c'était une hypothèse de départ, une hypothèse forte. Hein. C'est lui qui a envoyé Jane Goodall observer les chimpanzés, c'est lui qui a envoyé Diane Fossé observer les gorilles, et c'est lui qui a envoyé Birute et Galdikas, à observer les orangs-outans. Trois femmes, c'est pas un hasard. Et pourquoi est-ce qu'il envoie des femmes ? Parce qu'il se dit, et alors c'est un essentialiste, je vais dire par là, il pense que par nature, les femmes sont plus proches des non-parlants parce qu'elles sont destinées à la maternité, gloups pour les féministes, parce qu'elles pensent que par nature, les femmes sont plus observatrices. Si, dit-il, vous envoyez deux femmes dans une église, une femme dans une église avec un homme, et puis à la sortie de la messe, vous leur demandez comment est-ce que les gens sont habillés, l'homme vous dira, il sera incapable de vous donner le moindre détail, la femme pourra vous décrire chaque chapeau, chaque chaussure, etc. Mais gloups de nouveau, les femmes seraient par nature de meilleures observatrices. Mais en fait, il y avait un autre truc aussi. Il pensait aussi que les femmes étaient moins ambitieuses, moins carriéristes et plus fiables de ce fait. Et il avait eu des ennuis avec des chercheurs masculins, à juste titre, c'est-à-dire qu'il les envoyait sur le terrain, puis il espérait qu'il reste quelques années sous ses ordres sur le terrain. Mais en fait, les mecs, ils rentraient le plus vite possible pour écrire des articles, essayer de postuler dans les universités, etc. Alors, vous savez, ces femmes, elles n'étaient pas dans des positions enviables. Donc, je vais dire, Leakey, Jane Goodall, elle n'était pas scientifique, elle était secrétaire. Alors, Diane Fossé, elle était déjà, je crois qu'elle avait déjà un diplôme, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a longtemps que j'ai plus lu ses écrits. Et je crois Galikas aussi. Mais de toute façon, il choisissait des femmes qui n'avaient pas déjà un doctorat, enfin bref. Et il s'arrangeait pour les mettre dans des situations où elles allaient vraiment attacher à leurs animaux. Et donc, ce n'est pas tellement que les femmes sont des meilleures observatrices, c'est que ces femmes ont été envoyées sur le terrain par Leakey, si on parle de Diane Fossé, avec un mandat, ne soyez pas comme les hommes. Soyez une femme comme on attend, comme notre société attend que les femmes se comportent, c'est-à-dire soyez maternelles, soyez attachées à vos animaux, soyez engagées-vous pour eux, etc. Ce qu'un homme ne ferait jamais, sous-entendu. Mais s'il est vrai que les femmes ont observé des choses dans les années fin des années 60, début des années 70, qui étaient rarement observées par les hommes à cette époque-là, donc il y a une différence. Vous pouvez soit prendre une hypothèse qui est une hypothèse de dire, bon, mais les femmes peut-être sont attentives, sont, etc., pour des raisons, pas du tout essentiellement, mais parce que culturellement, elles sont éduquées dans le care, dans l'attention, etc. Ou bien vous pouvez prendre une autre hypothèse qui est de dire, une posture qui est de dire, oui, mais attention,
qu'est-ce qui pratiquement arrivait sur ce terrain, sur les terrains avec les femmes? Pourquoi est-ce qu'elles voyaient des choses que les hommes ne voyaient pas? Ah tiens, elles pratiquaient plus souvent l'habituation. Ah tiens, mais pourquoi est-ce qu'elles pratiquent plus souvent l'habituation? Parce qu'elles sont plus attachées à leurs animaux? Non, parce qu'elles restaient très longtemps sur le terrain. Ah, pourquoi est-ce qu'elles restent plus longtemps sur le terrain? Parce qu'elles sont investies émotionnellement? Mais non, parce qu'elles n'avaient pas de chance d'avoir des carrières universitaires, donc elles ne pouvaient pas avoir d'autre choix que de rester. Et vous avez une autre hypothèse. Et je pense que l'une ne va pas sans l'autre. Qu'il y a certainement des caractéristiques qui font que nous sommes éduqués, et je pense que ma génération l'a encore été, pour être plus attentifs, pour être plus à l'écoute. Nous avons été aussi, d'une certaine manière, attentives à nous sommes beaucoup plus, je pense, moi je suis particulièrement, et je remarque que beaucoup de femmes autour de moi le sont, on est plus vite irritées par des théories générales, par des grandes généralisations, par des théories trop rapides, par le fait que quand on sort une grande théorie, qu'on va avec une grande théorie sur le terrain, on n'écoute pas vraiment très très bien ce que les gens ont à vous dire, parce qu'on a par des grandes idées comme la vérité, la liberté, l'évolution, la différence entre l'homme et l'animal. Je remarque que ça nous intéresse pas trop, la plupart des femmes avec qui je suis et moi-même. Et donc c'est une condition féminine, peut-être aussi féministe. Je pense qu'il faut penser que c'est aussi une condition où on était fabriqué aussi par l'épistémologie féministe et par les revendications féministe. Et donc voilà, mais que l'une ne soit pas exclusive de l'autre, ça me paraît intéressant.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Vinciane Després, Ben Mazué, Vivant.
Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé. Je t'écris les mains qui tremblent, c'est plus facile de s'interdire de l'évoquer. Je pense à toi mille fois par an, j'essaie pas de faire autrement, même s'ils me disent de laisser le temps faire ses affaires. Et pour te garder vivante, je te raconterai l'ardente épopée de ton équipe d'hier. Je ne parlerai pas d'absence, c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste. Je ne parlerai pas d'absence, c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste vivant. Vivant. Je t'écris depuis mon antre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé. Après le déni vient la colère, et comme je suis pas très énervé, je me dis que j'ai pas trop avancé. Les affaires, pas mal, mille ans grandit, ça c'est normal. Et à chaque fois je réalise que je peux pas taper pour ses progrès. Je me dis que la mort mène d'un regret, mais aussitôt j'égalise. Je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste. Je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance aux gens, de faire tout pour que ça reste vivant, vivant, vivant. Je t'écris du 23e étage, je te parle comme on parle au mirage, et je me souviens. Quand je t'ai dit de mourir sereine, que je serai solide, que j'ai de la peine, mais que tu m'as donné les armes. Tes réponses, mon credo, sont gravées sous mes abdos. C'est pas comme ça qu'on t'en a pas. J'ai tes conseils tatoués, cicatrisés au sel dans chacun de mes virages. Il y aura ton visage. Oh, je ne parlerai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite.
Alors, dans ce domaine du vivant, il y a la nature, il y a les animaux, il y a les hommes. Ils font pas tous forcément très bon ménage. Sauf avec vous, Vinciane Després. Le dernier livre en atteste encore. Vous avez publié déjà de nombreux livres sur l'éthologie, le chez-soi des animaux, Il y a ce livre incroyable qui s'intitule « Bêtes et hommes ». Il y en a un autre qui s'intitule « Quand le loup habitera avec l'agneau ». Et là, c'est avec les oiseaux que vous conversez déjà depuis pas mal de temps. Ce livre s'ouvre avec une expérience qui peut tous nous arriver et qui généralement est arrivée, j'imagine, à beaucoup d'auditrices et beaucoup d'auditeurs. C'est-à-dire que au début du printemps, quand on laisse un peu la fenêtre de sa chambre ouverte, on est très attentif au bruit des oiseaux, y compris en pleine ville.
Surtout en pleine ville pour les merles.
Pour les merles. Et c'est comme ça que ça commence pour vous. Sauf que vous êtes à la fois théoricienne et en même temps vous revendiquez une forme d'émotion pour pouvoir mener vos enquêtes. Et là, vous allez théoriser. Est-ce qu'on peut appeler ça la solidarité des oiseaux entre eux?
Ah, on pourrait le dire comme ça. C'est une, alors, le terme solidarité, je veux dire, au moins nous permettrait
de vivre ensemble.
C'est un vivre ensemble. Mais alors, si le terme solidarité est un peu fort, je le garderai quand même. Parce que ça me permet d'intensifier une dimension de la vie collective de certains oiseaux. Enfin, une espèce de vie sociale, parce qu'elle n'est pas totalement collective, elle est semi-collective. C'est un agencement très particulier, très inventif. Et qui est la notion de territoire. Et ce qui m'intéressait, c'est... Alors, vous avez parfaitement de raison de dire, qu'est-ce qu'on va faire avec une émotion? Quand on est bouleversé par le chant d'un merle, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, c'est d'abord d'essayer de voir, bah, tiens, mais ce chant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que les scientifiques en disent? Et qu'est-ce que je vais faire pour ne pas oublier la beauté de ce chant et garder cette beauté précieusement tout au long de mon investigation et de poser la question de savoir est-ce que la beauté fait quelque chose? Est-ce que la beauté a pu, comme elle a pu me faire quelque chose, est-ce qu'elle peut faire quelque chose aux scientifiques? Est-ce que l'émotion, que quelque chose est très important pour Semel, est-ce que les scientifiques ont pu être traversés par ça? Donc ne pas perdre de vue cette question, ça c'est le premier point. Et puis vous parlez de solidarité, donc je dis oui, et vous dites vivre ensemble, et je crois que c'est le mot qui serait le plus raisonnable sur cette situation, mais parfois il ne faut pas utiliser les mots raisonnables, il faut utiliser des mots qui intensifient une dimension de la situation quand celle-ci a peu de chances de rester, quand celle-ci est vulnérable. Parce qu'on a tout le temps l'impression que les oiseaux sont en compétition et que la plupart des théories qui parlaient du territoire, qui évoquaient le territoire, elles étaient profondément marquées par deux idées qui les traversent. C'est que les animaux sont en compétition autour des ressources et c'est que les territoires sont des lieux d'intense compétition et d'intense agression. Et ce sont des idées qui sont fortes, dont il est très difficile de se défaire, alors qu'on se rend compte qu'il y a des théories qui tiennent extrêmement bien la route, qui non seulement tiennent extrêmement bien la route, mais prennent en compte beaucoup plus de faits, mais simplement les interprètent à la lumière de leur connexion entre eux, montrerait qu'en effet, le territoire est une façon pour les animaux, pour les oiseaux, pardon, parce qu'on ne va pas parler des mammifères ici, parce que c'est un problème très différent chez les mammifères, est une façon pour certains oiseaux, parce que je ne peux pas faire de théorie générale, en tout cas pour les oiseaux dont les théoriciens m'ont le plus intéressé, de continuer à vivre ensemble, tout en pouvant réguler la distance qui leur permettait d'assumer les tâches de la reproduction, la vie en couple, la vie avec les petits. Et donc c'est une façon de s'organiser qui est absolument très inventive. En hiver, pour certains oiseaux, on vit tous ensemble, on glane dans les champs, on s'entend bien. Et puis une fois qu'arrivent des gros enjeux, on va s'isoler les uns des autres et on va se territorialiser. Et une fois qu'on est territorialisé, c'est vrai qu'il y a mise à distance des autres. On va empêcher les autres d'entrer sur le territoire, mais pas systématiquement pour certains, pas trop systématiquement pour d'autres. Et c'est une façon en fait de vivre qui permet de continuer à vivre socialement, puisqu'on est tout le temps avec ses voisins, sans subir la pression énorme qu'est la socialité à un moment donné où cette pression serait problématique.
Donc ça veut dire qu'à partir de vos observations, Vinciane Després, on peut en tirer des conclusions pour notre vivre ensemble. Ils sont dispensateurs de leçons philosophiques, voilà, morales et humaines.
Alors on peut, à condition que le « on » ce ne soit pas moi. Voilà, on peut en tirer des conclusions, on peut en tirer des modèles, mais moi je peux pas. Je peux pas parce que, d'une part parce que je me méfie de faire des animaux des modèles, parce qu'il y a toujours un risque, c'est quand ils jouent très bien le rôle de modèle, et les singes en savent quelque chose, c'est généralement parce qu'on a projeté sur eux le modèle de notre propre société qui fait qu'ils y ressemblent tellement bien. Donc, une fois qu'on met les animaux dans une relation de modèle, je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper complètement? Donc ça c'est le premier point. Les oiseaux ont bien échappé, je trouve, à ces projections, puisque nous circulons majoritairement aujourd'hui je parle de nous en Occident, capitalistes civilisés, prétendument civilisés, et qui sont une contradiction permanente à la civilisation par rapport justement au rapport avec la nature. Bon, ben, je suis en train de dire que notre conception du territoire est une conception qui est profondément imprégnée par l'idée de la propriété privée. Et c'est là où je trouve que les ornithologues ont été formidables, c'est qu'ils n'ont pas projeté cette dimension qui imprègne profondément notre façon de concevoir concevoir l'idée du territoire, de la terre, des choses qu'on habite. Et donc les ornithologues ont été formidables. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a moyen de penser le territoire sans penser nécessairement propriété privée, qu'il y a moyen de penser l'habiter sans penser nécessairement à être un petit à des êtres petits bourgeois jaloux de leurs prérogatives, etc. Et ça m'intéresse. Donc moi je ferai pas trop vite le passage, mais je dis c'est le 11 si c'est moi, n'importe qui peut le faire. Et ce livre, si ce livre réussit son travail, s'il ouvre l'imagination, on peut faire à ce moment-là des analogies, se dire tiens mais c'est intéressant, ça peut penser à ceci, ou ça peut, c'est une jolie manière de vivre et tout. Mais mon travail à moi, c'est de faire le travail qu'a fait l'anthropologie, c'est-à-dire proposer d'autres façons de s'organiser qui plutôt vont miner l'évidence des nôtres, qui vont nous défamiliariser de l'évidence de nos façons de penser et de nous organiser.
Je vous propose d'écouter un grand savant qui a été extrêmement reconnu de son vivant, qui s'appelait Conrad Lorenz, que vous évoquez d'ailleurs à l'intérieur de ce nouveau livre, Vinciane Després. Il va parler de ses travaux avec des petits oiseaux isolés. C'est une archive INA non identifiée.
Ceux qui étudient la psychologie des hommes ne peuvent plus ignorer ces travaux. Les psychiatres, qui s'intéressent par exemple aux problèmes posés par les enfants troublés dans leur esprit, parce qu'ils ont été élevés sans l'affection de leurs parents, sont passionnés par les recherches du professeur Lorenz sur de petits oiseaux élevé comme celui-ci dans une chambre sourde, isolé de leurs parents et de leurs congénères. Car on constate à l'Institut de Sévisen que ces oiseaux devenus adultes et placés au milieu des autres ont un comportement totalement troublé. Ils sont parfaitement désadaptés et très vite le troupeau des oies ou des canards met à l'index ces individus asociaux, comme nous dirions, qui ne respectent pas les règles de la société.
Je crois que la symbiose entre la psychologie et la sociologie et la psychiatrie et l'éthologie vont devenir de plus en plus intenses. Les psychiatristes peuvent faire usage de nos résultats. L'étude du comportement des instincts sociaux des animaux sont assez importants pour comprendre les phénomènes sociologiques qui menacent l'existence de l'humanité à présent.
Que pensez-vous des théories aujourd'hui de Conrad Lorenz, Vinciane Després?
Conrad Lorenz, donc il y a pas mal de polémiques à son sujet, mais je ne vais pas aborder ces polémiques parce que.
Mais ces polémiques racistes.
C'est ça, raciste, eugéniste. Bon, ouais. Il était quand même à une certaine époque, il n'a pas pris de position très claire contre le nazisme et contre les théories. Il est même plutôt, il semblerait même favorable à certaines. Alors il y a Conrad Lorenz. Donc j'admire profondément le travail. C'est un travail où
travail scientifique sur les animaux et notamment les oiseaux,
etc. Il les a vraiment bien connus. Et toutes les observations.
Ça veut dire quoi, bien connaître un oiseau?
Alors, je vais dire que Conrad Lorenz était capable de décrypter le moindre mouvement et de savoir, tiens, il est en train de saluer. Là, c'est un rituel de salutation. Là, il détourne le bec. Là, il est en train de faire ceci. Donc, il avait une connaissance très, très intime des oiseaux. On a parfois l'impression qu'il est. Alors, on a reproché à Conrad Lorenz de les avoir anthropomorphisés, ces oiseaux. Et je pense que c'est pas ça qui s'est passé. Je suis pas la seule à faire cette hypothèse. Il était zoomorphisé. Il est devenu avec ses choucas. Il pensait comme un chouca. Il pensait comme une oie. Et c'est pour ça qu'il les comprenait si bien. Et tout ça, c'est vraiment formidable. C'est un travail de domestication où c'est l'humain qui a été domestiqué. Donc un travail de codomestication qui est formidable. Mais, alors, voilà ce que je pensais de Conrad Lorenz, ce que je pense toujours. Mais quand je me suis réintéressée à lui sur la question du territoire, j'ai relu son histoire naturelle. L'agression, une histoire naturelle du mal. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème avec la façon dont il traitait le territoire, qu'a bien repéré d'ailleurs Gilles Deleuze, et Félix Guattari. C'est il va trop vite. Et il va trop vite. Et alors, il va trop vite pourquoi? Parce qu'il a une théorie qui est tellement totalisante qu'il y a des tas de phénomènes qu'il ne va pas prendre en compte ou qu'il va simplement tordre les faits observés pour cette théorie. Lorenz, vous savez, il y a une espèce de morale de l'évolution chez Lorenz. Ça, c'est profondément marqué dans son travail. Il y a toujours une morale de l'évolution. Il y a beaucoup de chercheurs qui le disent. Hein. Ils disent, Lorenz a moralisé les théories, notamment. Et c'est vrai que ça plaisait bien, hein, que tous ces combats qui sont beaucoup plus ritualisés, que réellement exécutés, etc. Oui. C'est ce que Lorenz, alors ça, c'est plutôt intéressant aussi, hein, tout le fait d'avoir porté attention sur les rituels comme inhibiteur ou régulateur de l'agressivité, c'était très bien aussi. Ça, c'est formidable. Et beaucoup de chercheurs disent, il nous a invités à prêter attention à ça. Mais ce qui est le problème avec cette théorie, c'est que Lorenz va adopter à propos du territoire une théorie totalisante qui est le territoire a pour fonction ultime de réguler la population entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est déjà un peu embêtant comme la façon de dire, mais ça, c'est pas, je vais un peu vite et je suis pas très juste, mais ça, c'est la formulation de Wynne Edward, qui est un contemporain de Lorenz, mais du côté des Anglais. Toujours est-il, pourquoi ? Parce que, dit-il, en fait, ce que le territoire fait, ça permet d'éviter la surexploitation des ressources. Et pourquoi ? Parce que comme seuls ceux qui possèdent un territoire peuvent se reproduire, eh bien, ceux qui n'ont pas de territoire ne se reproduisent pas. Et comme le nombre de territoires est limité, puisqu'ils ne sont pas compressibles, ils sont un peu compressibles, mais pas trop compressibles, ben, chaque année, sur un espace donné, vous n'aurez que le même nombre, que la même population que l'année précédente. Puisque, éventuellement, soit l'oiseau revient sur son propre territoire et c'est petit, bah, qui se débrouille, qui va
ailleurs. Vous démontrez le contraire dans votre nouveau livre.
Oui, oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Lorenz parce que je trouve qu'il y a plein de chercheurs qui montrent que ça ne tient pas la route. Mais ce que je reproche à Lorenz, c'est d'avoir pris une théorie totalisante qui revenait à de nouveau justifier les deux principes fondamentaux qui animent nombre de théories, qui sont la compétition et l'agression. Et il ne les a pas du tout remis en question. Il n'a fait que les aménager de telle sorte à ce que ça reste, que l'agression reste bien de l'agression. Donc il dit, bah, elle est inhibée, régulée, etc. Mais il n'empêche que tous les motifs des animaux, c'est la compétition et l'agression. Et
ça, or, c'est faux.
Alors, or, il y a pas mal
c'est ce que vous affirmez.
Il y a pas mal de chercheurs qui vont observer des comportements qui montrent qu'en fait, les animaux ne s'agressent pas aux frontières du territoire, que c'est du bluff. Que Étienne Souriau disait, tout est prétexte à spectacularisation. Tout est matériau à spectaculaire. Ce que Deleuze et Guattari montrent aussi. Alors vous allez me dire, c'est des philosophes, mais c'est des philosophes qui n'ont pas oublié la beauté. Et qui sont allés chercher chez les ornithologues, ce que moi-même j'ai pu retrouver. Finalement, c'est des ornithologues qui se sont laissés traverser, impressionner par le fait qu'il y avait des dimensions de beauté. Et s'il y a des dimensions de beauté, c'est parce que c'est du spectacle. Et si c'est du spectacle, les agressions, je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais c'est une forme de jeu qu'on peut prendre au sérieux, qui met en scène évidemment de la rivalité, mais pas nécessairement de la rivalité par rapport à des propriétés. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Donc c'est une réévaluation de tous les comportements des oiseaux que vous faites à l'intérieur de ce nouvel ouvrage, Habiter en oiseau. Par exemple, le chant. On a toujours dit, depuis qu'on est petit, on nous a tous appris que le chant, c'était aussi une forme de compétition pour pouvoir dominer, etc. Vous dites que non, pas forcément.
Ah non, il y a plein d'autres, il y a vraiment beaucoup d'autres fonctions. Alors d'abord, il y a le chant qui appelle la femelle. Mais quand on voit, par exemple, que, et ça, c'est les recherches de Thierry Aubin pour le côté français qui le montre très bien, que par exemple, il a bien étudié l'alouette des chants par rapport à ça, c'est qu'il y a véritablement des dialectes qui s'apprennent. On apprend le même chant, on chante comme les voisins. Et donc, ça veut dire que les chants sont utilisés pas seulement pour se disputer, mais simplement pour communiquer ensemble et pour chanter. Et puis, de plus en plus, maintenant, les bioacousticiens remarquent que, alors, ce sont des recherches très récentes. Et par exemple, dans la forêt du Latium, en Italie, on découvre qu'il y a des chœurs interspécifiques. Donc, ça veut dire que les oiseaux, visiblement, chantent ensemble et s'efforcent de le faire de telle sorte à ce que ça forme un chœur. Donc, pas de cacophonie, pas de silence entre les chants, sauf le rouge-gorge qui, paraît-il, collabore beaucoup moins bien que les autres. Mais ça, c'est une vieille réputation du rouge-gorge. Et en veillant à ce que les chevauchements entre les moments musicaux ne parasitent pas le chant des autres. Donc, il y a une espèce que Bernie Krause, le bioacousticien, appelait ça un respect du temps de parole. Et je trouve que c'est assez prometteur que ces chercheurs se disent. Il y a peut-être, et de plus en plus de chercheurs commencent avec cette hypothèse extrêmement audacieuse, peut-être qu'il y a de la beauté pour la beauté.
Mais justement, vous évoquez Bernie Krause, c'est une de nos idoles. On a eu la chance de pouvoir le rencontrer en 2017, au moment où il avait fait une exposition à Paris. On va l'écouter à propos des sons de la nature et on va écouter un extrait de son travail sonore remarquable qui se passe là, en Amazonie.
We all hear.
Nous entendons tous.
But we really don't know how to listen very carefully.
Nous ne savons pas comment bien écouter.
We learn how to hear certain things when we become a musician.
On apprend à entendre certaines choses lorsqu'on est musicien.
But we really don't know how to listen in distinctive ways
comment écouter et distinguer les différents sons de la nature dans notre environnement.
The soundscape of the world
et le paysage sonore du monde est constitué de trois sortes de sons. Le paysage sonore, évidemment, c'est tout ce qui arrive dans le pavillon de nos oreilles. Mais il y a trois sources distinctes. L'une de ces sources, c'est la géophonie. La géophonie, c'est le son d'origine de la planète. Et la géophonie, c'est un son non biologique, mais qui est un son de la nature, qui vient des arbres, le vent, le bruit des cours d'eau, le bruit de l'océan, le mouvement de la terre. Voilà, c'est ce genre de son-là, la géophonie. Et c'est le tout premier son qu'a connu la planète. Puis, à mesure de l'évolution des animaux, ceux-ci ont trouvé comment s'inscrire sur le plan sonore dans la géophonie pour faire entendre leur voix. Donc il fallait qu'ils trouvent le bon endroit, le segment sonore pour se faire entendre. Et les sons de tous les animaux, c'est ce que j'appelle la biophonie.
Alors vous, Vinciane Després, à partir des observations que vous faites sur les territoires, sur le chant, sur le comportement, sur la solidarité entre guillemets entre certaines espèces d'oiseaux, vous allez encore plus loin parce que vous dites que finalement, à partir de vos observations éthologiques, on peut peut-être en tirer des leçons philosophiques, générales et universelles. Par exemple, ça serait, selon vous, ça c'est à l'intérieur de vos conclusions de ce dernier ouvrage « Habiter en oiseaux », la Terre entière chanterait. On nous parle d'anthropocène depuis quelque temps, hein, des grands philosophes comme Bruno Latour dont vous vous réclamez parlent d'anthropocène, mais vous allez plus loin, vous parlez de phonocène. Comment vous pourriez la décrire, cette phonocène ?
Alors, si elle reste à décrire. Et justement, c'est plutôt une proposition qu'une réelle description, et c'est plutôt une manière d'interpeller plutôt qu'une théorie générale. Je veux dire, la Terre chantera. Elle chante déjà, mais elle chantera d'autant mieux si on l'écoute. Et le phonocène, en fait, c'est une proposition que Donna Haraway avait faite, de dire, ben, si on nommait notre ère plutôt qu'anthropocène, capitalocène, plantationocène, si on la nommait phonocène. Et elle va pas beaucoup plus loin, elle dit simplement c'est l'ère des sons de la Terre. Et je me dis, mais c'est joli comme proposition, parce que qu'est-ce que ça change par rapport à... Je dis pas qu'anthropocène doit être abandonné. Il est très important qu'on sache la catastrophe dans laquelle on est, et qu'on sache pourquoi on est, à condition que ce soit pas anthropos, parce que c'est pas tous les hommes, c'est quand même... bon. Capitalocène, c'est formidable aussi. Mais toutes ces dénominations, en fait, ne nous parlent pas des possibilités de joie, ne nous parlent pas des possibilités de vie, nous parlent d'extinction, mais pas encore de ceux qui sont toujours là. Et moi, je trouve que c'était important de parler de phonocène, d'abord parce que c'était important de dire, et si on réécoutait, et si on se faisait un peu moins confiance au visuel, et si on se laissait traverser par l'écoute, qui est quand même un registre d'une sensorialité très différente, qui nous met en notre rapport, mais aussi si on retrouvait des possibilités de joie, et si aussi, vous savez, chaque fois que je parle des oiseaux, moi, on me dit, vous n'oubliez pas, ils disparaissent, et je dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours clôturer le discours par de la tristesse, alors qu'on devrait peut-être au moins faire attention, écouter ceux qui sont encore là. Et ne pas, je veux dire, est-ce que parler des extinctions n'est pas encore une façon de se dédouaner, d'aller écouter, de mettre ses bottes ? Là, je parle comme Baptiste Morisot, de mettre ses bottes et d'aller écouter et d'être attentif et d'avoir froid et d'être sous la pluie et d'être, et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec eux, qu'est-ce qu'on fait pour eux, etc.
On va terminer par votre dernière phrase de votre nouvel ouvrage, Vinciane Després. Et que ce que nous risquons bien de perdre, faute d'attention, ce sera le courage chanté des oiseaux. C'est quoi le courage chanté ?
Alors je fais référence évidemment à une chanson de Dominique A, qui nous rendra le courage des oiseaux, je m'étais dit, tiens, il fallait bien un poète pour parler du courage des oiseaux. Et puis je me suis dit, mais il a tellement raison. Il a tellement raison quand on entend ces oiseaux qui chantent alors que c'est pas facile pour eux. C'est vraiment pas facile pour eux. Pour certains d'entre eux, c'est pas facile. Je veux dire, la vie est devenue aussi difficile pour eux. Et qu'ils continuent à chanter. Et je dis, malgré tout. Et avec tout. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'il nous faudrait apprendre. Et si j'utilise cette phrase poétique dans un livre qui n'est pas un poème, qui n'est pas du tout de la poésie, qui parle des scientifiques, qui parle des oiseaux, des scientifiques, je me suis dit, allez, un petit coup d'audace en me servant de ce que m'apprend le chanteur Dominique A, en me disant, peut-être que ce serait bien aussi qu'on apprenne à penser les oiseaux comme des êtres courageux.
Ben, merci infiniment. Donc, je rappelle ce nouveau livre, mais il faut lire aussi tous les autres. Ils sont parus chez Actes Sud. Le dernier s'intitule « Habiter en oiseau » et il vient d'être publié dans la collection « Monde sauvage ». Merci infiniment, Vinciane.
Merci beaucoup à vous.
Elle est à l'imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Tchèp tchèp, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées. Une nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse. Elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale, mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Ma sophrologie. Elle est ma chance sans incidence. Elle a l'aimé et le plus beau de mes soucis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini.
C'était Chip Chip, c'est fini. Et oui, hélas, c'est fini. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Good Trip.